assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Ce dernier 8 mai, quelques personnes à Montpellier se réjouissaient en chantant « On a un pape ». Était-ce des catholiques qui fêtaient l'accession de Léon XIV ? Pas du tout. C'était des protestantes de l'EPUMA, donc Église protestante unie de Montpellier, filiale de l'EPUDF, Église protestante unie de France, qui jubilaient d'avoir un nouveau président de conseil presbytéral. Alors ce pape protestant montpelliérain, Alain Chapelle, nous fait l'honneur de venir se présenter ici. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors, pour un pape, bon, j'espère que ça ne vous gêne pas d'avoir été pris pour un pape à un temps court.
C'est ça, c'est une concomitance de dates qui a fait qu'effectivement, habemus papam, voilà. Y compris dans les PDF.
D'accord, donc on vous l'a fait...
C'est ça.
Voilà, bon ben, comme ça c'était au moins une élection bien fêtée.
En tout cas datée.
Oui. Alors, donc vous êtes un protestant d'origine, parents protestants.
C'est ça, parents protestants. Alors mes parents étaient, ma mère était même fille de pasteur, donc ce qui est déjà une lignée.
Oui.
D'une certaine façon. Mon père l'a été parce qu'il était, il a baigné dedans lui aussi, à travers le scoutisme et puis à travers après ses études, puisqu'il a été médecin et membre ici du centre universitaire protestant qui était accolé à la faculté de théologie. Donc il a connu un certain nombre de personnes et de personnalités qui deviendront plus tard de fortes, de grandes personnalités, comme André Gounel, par exemple,
oui.
Puisqu'ils ont été étudiants ensemble,
oui.
Sur les mêmes bancs, j'allais dire, du CUP.
Oui, et CUP, voilà. C'était donc le Centre Universitaire Protestant, voilà. Qui, à l'époque, recevait
des
étudiants
de toutes, oui, oui. Je dis, disciplines.
Oui, oui, oui.
Donc voilà, médecine, droit,
oui, oui. Oui.
Théo, pharma, peut-être, oui. Je ne sais pas, lettres.
Ouais. Voilà. Ouais. Alors, vous avez une éducation protestante classique,
religieuse, effectivement, dans un temple à Nîmes, puisque effectivement nous étions avec le pasteur Coupry. J'avais été accompagné là pendant plusieurs années. Et puis, le déclic s'est fait au moment de l'adolescence, c'est-à-dire où, ma foi, la première digression par rapport à des séances quotidiennes ou hebdomadaires plutôt de catéchisme, c'était vivre un week-end à l'extérieur avec le groupe de jeunes que nous formions. Et donc ça, c'était déjà une autre aventure.
Ouais, parce que ces groupes de jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient alors
J'avais un enseignement hebdomadaire, mais ouais. Je dirais sans... forcément, peut-être des participations au culte ou autre, mais sans forcément avoir...
un côté vie, cultuel
une vie,
trop...
une vie de groupe, voilà. Mmh. Et effectivement, le week-end permettait une vie de groupe.
Ouais.
Voilà, et des découvertes sur d'autres facettes des personnalités des uns ou des autres.
Ouais.
Voilà. Bon, ça a été quelques séances. Et puis ensuite, à 17 ans, effectivement, j'ai découvert le mouvement charismatique qui m'a un peu étonné. Boosté, parce qu'effectivement, on sentait de la joie de vivre dans plein de jeunes ou adultes qui vivaient dans ce mouvement. Et j'ai intégré comme ça quelques conventions à Gagnères, dans le Gard.
Oui, il y a un centre protestant,
un centre protestant,
là.
Voilà, oui, avec effectivement un certain nombre de groupes de musique qui naissaient. Et puis beaucoup, beaucoup de jeunes à l'époque, et cette dimension effectivement spirituelle.
Alors charismatique, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'un mouvement charismatique?
Oh, je serais un peu dire en difficulté, mais bon, le mouvement charismatique en ce sens où il y avait un prêche à une conversion ou une reconversion,
oui.
Voilà, pour un engagement plus fort auprès de Jésus-Christ. Et ce mouvement, bon, avec toutes les à côté qu'on en a connus, le parler en langue, des effets et des effusions, je dirais, de l'esprit qui se manifestaient au cours de séances collectives. Mais c'était pas que ça, c'était aussi un approfondissement de la foi avec une lecture assidue de la Bible, voilà.
Donc, et ça, c'était l'Église réformée de France à l'époque.
Alors, disons qu'elle était ouverte ou attentive à ce qui se passait là, de naissant, dans ce mouvement charismatique. c'était pas l'EPUDEF en tant que tel, qui était resté quand même une église traditionnelle, je dirais.
Oui, voilà. C'est pas tellement le genre parler en langue,
Du tout, c'était un mouvement, voilà. Mais qui a irrigué effectivement un certain nombre de paroisses locales dans la région, et avec des réussites aussi sur des conventions qui ont drainé du monde. Il y avait jusqu'à 2000 personnes parfois.
Oui, ça fait rêver maintenant.
Voilà. Donc, mais ceci étant, après, je me suis un peu dégagé de ce mouvement, venant à Montpellier poursuivre des études. Voilà, j'ai fait des études de psychologue et effectivement, je me suis détaché peu à peu de ce mouvement charismatique, ayant intégré aussi d'autres groupes de jeunes ici à Montpellier, plutôt sous l'obédience d'un prêtre, le père Noël Seigne, et qui effectivement accompagnait des étudiants sur Montpellier de toutes sortes de facs.
Ouais.
Et on était rue Lutruel, à côté de la paroisse Sainte-Bernadette actuelle.
Et comment vous avez rencontré donc ce prêtre, parce que vous n'étiez pas destiné en étant protestant et puis après en étant dans des groupes charismatiques.
Je me souviens plus de l'accroche et de comment on avait pu être, comment j'ai pu être intégré ce groupe, mais je pense qu'il y avait une dynamique estudiantine où on s'est parlé avec un certain nombre de personnes, voilà, et c'est comme ça que j'ai intégré ce groupe sans trop savoir comment j'y suis arrivé.
Effectivement. Et là, ce groupe, il était catholique, il était œcuménique,
Il a été œcuménique de fait parce qu'il y avait quelques protestants qui participaient et du coup, c'était un groupe de réflexion d'étudiants.
Ouais.
Ce groupe aussi a pu, comme ça, un peu à géométrie variable. Tout le monde n'était pas tout le temps présent dans ces séances de rencontres et de réflexions. Mais on a pu, comme ça, cheminer avec quelques week-ends dans des villages reculés en animant des messes ou en animant des célébrations, je dirais comme ça. Et puis, ce groupe a pu vivre aussi un moment fort à Thésée. Thésée reste toujours à cette époque-là un phare et un pôle d'attraction. Et vivre une semaine à Thésée en groupe...
Alors Thésée, c'était un endroit où c'est toujours œcuménique, de retraite.
Voilà, absolument. Et qui attire beaucoup de jeunes.
Oui.
Et dont le message, effectivement, est fortement destiné alors aux adultes aussi, bien évidemment, mais aussi aux jeunes. Et c'est un lieu international. Du coup, c'était des rencontres...
Ben justement, on va en parler parce que je voudrais rentrer un peu dans ce sujet. Vous vous impliquez aussi dans une communauté, les franciscaines missionnaires de Marie. Alors, Marie, quand on est protestant et que on n'a pas la même vision de Marie que l'Église catholique, comment ça se passe en étant dans un dialogue œcuménique et parler de Marie? Qu'est-ce qu'on retient de Marie?
Alors, les franciscains missionnaires de Marie étaient un ordre religieux, effectivement, que j'ai côtoyé, avec la présence de deux puis trois religieuses. Ceci étant, par rapport à la figure de Marie, je crois que les protestants restent très, sereins, posés, au sens où, effectivement, Marie représente une figure importante de, bien évidemment, de la vie des évangiles. Mais nous n'en faisons pas, nous ne sacralisons pas la figure de Marie en tant que mère de Dieu. Bien sûr qu'elle reste la mère de Jésus-Christ, voilà, puisqu'elle a enfanté cet enfant, mais en même temps, c'est une figure que nous ne prions pas nécessairement.
Voilà, alors la question, est-ce que quand il y a des prières, dans les groupes œcuméniques que vous fréquentez, si elles sont majoritairement catholiques, est-ce qu'il y a des prières à Marie? Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Il y en a, on les accepte.
Oui.
Ce sont des frères et sœurs qui ont cette piété vis-à-vis de Marie.
Oui.
Mais que je ne pratique pas.
Oui, d'accord. Ça ne
nuit pas aux relations qu'on peut avoir avec des catholiques fervents, croyants, même s'ils ont cette piété vis-à-vis de Marie.
Et alors, le catéchisme, on va passer sur votre vie assez rapidement. Vous vous mariez, vous avez des enfants et vous faites partie d'un catéchisme œcuménique. Enfin, vous êtes dans un catéchisme œcuménique. Alors, je voulais vous demander, qu'est-ce que En quoi c'est différent d'un catéchisme protestant? Parce que, par exemple, bon, sur l'histoire de Marie, c'est pas tellement le fait qu'on la prie pas, mais c'est aussi toute l'histoire de la sexualité. Marie, vierge chez les catholiques, chez les protestants, la virginité n'est pas une valeur. Ou alors, j'ai rien compris. Mais bon, il me semble. Et puis, y a l'histoire de l'Église, la conception de l'Église. Chez les catholiques, elle est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Chez les protestants, pas du tout. C'est un moyen de pratiquer sa foi avec des frères, j'allais dire. Comment on peut finalement, qu'est-ce que un catéchisme œcuménique est différent d'un catéchisme protestant? Alors, qu'est-ce qu'on ajoute?
Au final, maintenant, 20 ans après, ou 25 ans, ou 30 ans après, je me dis que est-ce que c'était vraiment un catéchisme œcuménique? Il a été œcuménique de par la présence de à la fois de membres de la communauté catholique et de membres de la communauté protestante. Mais le catéchisme, cette catéchèse œcuménique qui a été ici fondée à Montpellier par le pasteur Michel Fréchet et le père Noël Seigne, que nous connaissions et qui nous accompagnait dans un groupe de foyers mixtes, comme on disait à l'époque, ont créé cette catéchèse à destination des parents couples mixtes.
Oui.
Et en vue, effectivement, de découvrir ensemble ce que pouvait apporter l'Évangile. Et donc, ça a toujours été un catéchisme biblique et fondé sur la Bible. Donc, de toute façon, ce n'était pas les grands-pères de l'Église, ce n'était pas les grandes doctrines catholiques, mais c'était le texte biblique. Et donc, on s'est coltiné avec le texte biblique. Alors, il y avait des thématiques un peu choisies chaque année. Et pendant les 11 ans où on a été responsable de ce groupe œcuménique, après d'autres, je pense notamment au Forneron ici à Montpellier. Annie et José Forneron qui ont été des personnes effectivement de la première vague de ce catéchisme œcuménique. On a suivi et les jeunes couples que nous étions, eh bien, on a exploré. Alors, toujours avec un pasteur et un prêtre, et plus tard, ça a été des laïcs qui se sont investis dans cet enseignement catéchétique.
Et c'est pour répondre aux attentes des parents
d'abord
mixtes.
D'abord des parents couples mixtes.
Voilà, parce que vous êtes en couple mixte.
C'est ça, ma femme est catholique. D'accord. Et moi je suis protestant. Et au final, on a cheminé ensemble dans cette interrogation mutuelle de nos, des racines et des fondements de chacune de nos églises pour mieux arriver à discerner quelle est notre place, voilà, en tant que couple.
Et pour les enfants, qu'est-ce que ça implique? Alors, des enfants qui vont à ce catéchisme, parce que à un moment, il faudra qu'ils fassent un choix. Ça se passe comment?
Alors, à un moment donné, il faut qu'ils fassent un choix, et c'est vrai que je pense que le choix est aussi à faire toujours de personnes que l'on rencontre et de personnalités que l'on rencontre et d'attachement finalement, de figures d'attachement qu'on repère. Et là, en l'occurrence, ça a été avec Jean-Daniel Cosse, puisque Jean-Daniel, qui était pasteur à la paroisse Saint-Paul, a animé cette catéchèse œcuménique pendant plusieurs années. Et c'est à l'âge de 13-14 ans qu'elles ont décidé de se faire baptiser chez les protestants, comme on dit.
Oui.
Voilà, je ne dis pas, elles ne sont pas baptisées protestantes, non. Puisque le baptême est un baptême,
chrétien,
est un baptême unique, reconnu par nos deux églises. Voilà, donc, mais elles ont décidé effectivement d'avoir un accompagnement plus spécifique par le pasteur qui était à l'époque Jean-Daniel.
Et donc, ce regard, le regard que vous avez maintenant sur ce passé œcuménique, qu'est-ce que vous pensez que ça se continue toujours, ces dialogues? Est-ce qu'ils ont changé de nature? Est-ce que c'était lié à une certaine époque avec Thésée? Enfin, bon.
Je pense que c'était lié à une certaine époque, puisqu'effectivement, toute la vague des foyers mixtes avec le père René Beaupère, qui, sur le plan de la région du Sud-Est, promouvait des grands rassemblements de foyers mixtes pour qu'effectivement, il y ait une identité. C'était un peu l'aiguillon de nos deux églises, quoi, dans cette rencontre œcuménique. Et on sent que ça a perdu de cette étincelle. Il y a eu un frein. Alors, je ne sais pas, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on sent qu'il y a quand même moins de dialogue œcuménique. Alors, peut-être qu'il est vrai au niveau des théologiens, mais il l'est moins au niveau ecclésial.
On sent moins cette
envie de partager entre catholiques et protestants. Et je trouve que c'est une dimension dans laquelle on oublie trop. parce qu'effectivement, on se sent davantage proche probablement de nos frères catholiques et sœurs catholiques que parfois de protestants évangéliques qui sont dans des expressions de foi qui ne nous correspondent pas.
Mmh.
Voilà.
Mmh.
Et effectivement, cette dimension œcuménique, elle reste à retrouver. Et on a certainement des tas de pépites à explorer encore par ces rencontres mutuelles.
Mais ça dépend, donc ça dépend pas seulement des personnalités, parce que là vous avez nommé des personnalités, mais ça dépend aussi d'une politique de l'Église catholique qui a mis un frein aux relations œcuméniques. Moi je me rappelle, il y a un prêtre qui a été déplacé, qui a été envoyé ailleurs parce que il avait accueilli à la communion, à l'Eucharistie, des protestants. Et il a été déplacé. Mmh. Effectivement, il y a eu une reprise en main de l'Église catholique il y a un certain temps. Alors, on va quitter ce domaine des relations avec les autres églises. On va voir votre action sociale, puisque le but, c'est aussi de vous connaître. Alors,
oui.
Vous êtes psychologue.
Alors, je suis psychologue de formation, mais je n'ai jamais exercé en tant que tel. Et ensuite, je suis entré dans la fonction publique pour intégrer un service social, finalement. D'abord auprès des personnes handicapées à la ville de Montpellier. Et j'y ai œuvré pendant 17 ans à peu près. Et puis ensuite, je suis parti au département de l'Hérault, qui reste l'organe, qui a en charge l'ensemble des politiques sociales et d'action sociale auprès des publics défavorisés. Et j'ai intégré le département et j'y suis resté 23 ans. Donc toujours au service à la fois des personnes vulnérables, personnes notamment dans une première partie de ma vie professionnelle en protection de l'enfance. Donc en responsabilité sur la protection de l'enfance. Et puis ensuite dans la responsabilité d'équipe médico-sociale, de PMI et sociale, qui éducative, qui était sur Saint-Mathieu-Tréviers-Ganges. Et puis ensuite j'ai intégré une grande agence Maison des Solidarités Montpellier-Rennes pendant 5 ans.
Et ça, donc, c'est sur le plan professionnel, mais
oui.
En dehors de ça, vous trouvez le temps d'être vice-président d'une association donc, qui s'appelle Sésame.
Alors, Sésame Migration Santé, c'est une association, la 1901, qui fête cette année ses 40 ans et qui a été créée par quelqu'un bien connu dans l'Église protestante, qui est le docteur Revaz Nicoladze, qui était un géorgien qui est venu effectivement ici et qui, exilé, et qui, avec sa formation de psychiatre et pédopsychiatre, ou neuropédiatre, je ne sais plus maintenant, créé cette association pour venir en aide aux exilés. Et c'est une association qui est composée essentiellement de psychologues et qui fait un travail d'accompagnement en santé des familles exilés ou des familles immigrées. Et donc, on a des partenariats avec la région, le département, la ville, la métropole, l'éducation nationale, la caisse d'allocation familiale. Et on accompagne des publics fléchés, publics suivis déjà souvent par des services sociaux, pour venir en éclairage et en accompagnement de ces publics qui ont des difficultés avec la langue. Donc, on a des psychologues arabophones, essentiellement.
Et
mais on a pu avoir des psychologues turcophones aussi, pour pouvoir...
Et est-ce que vous avez des difficultés avec les pouvoirs publics? Est-ce qu'on vous demande de demander les papiers? Est-ce qu'on vous soupçonne d'aider des sans-papiers? Comment ça se passe? Parce que la période n'est pas très bonne.
C'est vrai, il n'y a pas de soupçon d'aider des sans-papiers. Je pense que l'ensemble des pouvoirs publics savent bien qu'on accueille aussi ce type de public nécessairement et qu'on aide à effectivement s'enraciner dans la culture du pays. Mais... Et on est très reconnu par les pouvoirs publics par rapport à ce travail justement de médiation interculturelle. Et il y a besoin de déconstruire les images à la fois dans les familles qui sont accueillies, parce qu'elles perçoivent le système français comme un système contraint, etc. Et en même temps, on a besoin de déconstruire pour ces familles ce qui se passe en France aussi. Donc, c'est tout ce travail d'appropriation et d'intermédiation culturelle que les psychologues s'efforcent de faire auprès des familles et auprès des enfants, puisque nous accueillons aussi et accompagnons des enfants pour souvent des problèmes de santé graves, et notamment la question des droits auprès de la maison des personnes handicapées pour obtenir des allocations ou des aides à l'éducation de ses enfants.
Alors, vous êtes au conseil presbytéral de l'EPUDF, donc de l'EPUMA, depuis 2000. Donc, vous êtes un vétéran des conseils. Alors, vous avez fait des gros chantiers, vous avez vécu des gros chantiers.
Alors, j'ai été présent effectivement de 2000 à 2009 au conseil presbytéral de l'EPUMA. C'était sous la présidence d'Anne-Marie Borne, et puis ensuite successivement de Jacques Guin. Et nous avons beaucoup travaillé à cette époque-là sur un projet d'église. Alors, un projet d'église, ça reste effectivement, on s'était emparé de cet outil, je dirais, pour essayer effectivement de mieux arriver à identifier quels étaient les besoins de notre église locale. Et on avait travaillé sur un projet d'église. Bon, et comme tous les projets, ben, il faut les renouveler, il faut les revisiter. Donc, il a vécu quelques années. Mais on avait accentué un certain nombre de choses, sur notamment la question des pasteurs, de leur dominante aussi, puisqu'on est une église avec 4 secteurs.
Oui.
Une église avec 4 secteurs. Et on a aussi des pasteurs à qui nous avions un peu fléché des dominantes d'intervention. Chaque pasteur couvrant la totalité de l'EPUMA
au
niveau géographique et territorial.
Ah oui.
Voilà, donc il y a à la fois une combinaison d'un accompagnement d'une communauté sur un secteur et en même temps un accompagnement sur certaines thématiques.
Et ça dure toujours ?
Alors ça dure toujours, mais avec peut-être moins de clarté, je ne sais pas, ou d'identité qu'auparavant. Mais bon, il y en a un qui est plus chargé de la diaconie, il y en a un qui est plus chargé de la catéchèse, il y en a un qui est plus chargé de la jeunesse, il y en a un ou une qui est plus chargé de... on a une répartition comme ça, thématique, qui permet de mieux identifier le dialogue interreligieux, de mieux identifier chaque pasteur avec sa dominante, je dirais. Voilà. C'est aussi une manière d'organiser les choses, parce que dans une église grande comme celle de Montpellier, on ne peut pas tout faire à tous les instants, sur tous les secteurs. Donc il s'agit effectivement de clarifier pour que chacun puisse y trouver sa place et se sente heureux dans son ministère.
Alors, vous avez donc été élu récemment président du conseil presbytéral et vous m'avez dit avoir eu des rencontres de formation déjà. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école des présidents de conseil presbytéral ? Et notamment, est-ce que vous avez une formation au niveau des violences sexuelles, certes, mais aussi spirituelles ?
C'est une question intéressante. Mais alors non, je n'ai pas encore bénéficié d'un apport ou d'un accompagnement à l'école des présidents. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une école des présidents, mais en tout cas, il est nécessaire qu'il y ait une école des conseils presbytéraux.
Oui.
Parce qu'effectivement, le conseil est un collectif.
Voilà.
Et l'optique, c'est qu'effectivement, ce collectif se forge, se forme, s'assemble, se rassemble et puisse comme ça, ensemble, tracer des pistes pour la communauté. Voilà. Et donc, on va bénéficier probablement à l'automne d'une formation par le conseil régional sur ce que c'est que le conseil presbytéral en termes de dimension et puis sur la dimension aussi nationale. Je veux dire, voilà, quelles sont l'organisation presbytéro-synodale est spécifique dans les PUDF, mais elle est intéressante parce qu'elle permet comme ça ce dialogue entre le local et le national. Et donc, on devrait bénéficier collectivement d'une formation dans ce sens. Sur la question de la présidence elle-même, non, je suis au service de cette église de Montpellier. Alors après, il y a de la technique, effectivement, qu'il faut acquérir. Il existe un logiciel qui s'appelle Logeas, que beaucoup de paroisses, toutes les paroisses françaises de l'EPUDF utilisent. Donc, il s'agit de connaître quelle est l'organisation de ce fichier, comment l'utiliser, voilà.
Oui, ça, c'est la gestion technique.
Administrative.
Voilà, qui est très importante, qui a un très gros travail et qui a été alourdi par la loi de 2021 sur les... C'est bien 2021
Oui,
sur les...
2021, oui.
Comment ça s'appelle ?
Sur la gestion des biens.
Et lutter contre la
communautarisation.
Ouais, voilà, c'est ça.
La communautarisation.
Communautarisation, je vais
y
arriver.
Oui.
Oui, cette loi qui, selon Jean-Daniel Roch, pollue complètement la vie de tous les conseils religieux en entraînant des déclarations administratives de 50 pages pour vendre 3 oreillettes ou des choses comme ça.
Oui.
Est-ce que vous l'avez senti déjà ?
Pas encore, mais
ça
je pense
venir.
Ça va venir, effectivement. On a un certain nombre de contraintes, y compris quand on prête des bâtiments ou loue des bâtiments à des tiers. Et pourtant, je veux dire que le rôle de l'Église, c'est d'être en prise directe aussi avec ce que vivent nos contemporains. Donc, il s'agit bien d'être en dialogue avec la société civile. Et nos bâtiments ne sont pas sacrés comme ceux de l'Église catholique, en tout cas, et nous ne les sacralisons pas. Et au contraire, on fait souvent de nos lieux de culte des espaces polyvalents pour pouvoir effectivement manifester et travailler en dialogue avec la société civile, qu'elle se manifeste par des associations loi 1901 ou par d'autres collectivités locales. Donc on a besoin comme ça de temps d'échanges pour mieux répondre aux aspirations et aux attentes de nos contemporains.
Alors, je reviens donc au travail du... Là, on a vu le côté administratif. Je reviens sur les personnes. Le conseil presbytéral est composé de personnes qui ont leurs histoires, qui ont leur tempérament, etc. Cohabitation avec un pasteur, ça se passe des fois bien, souvent bien, mais des fois pas bien. Est-ce que vous avez lu ce qu'a écrit Frédéric Rognon dans Violence, dans le livre de la FPF sur les violences spirituelles, sexuelles et spirituelles dans le protestantisme ? Alors, Frédéric Rognon a écrit 2 articles, dont un, je l'ai interrogé ici, où il dit que le protestantisme est particulièrement conflictogène et qu'il y a plus de conflits dans les associations protestantes que dans d'autres associations de même type. Et il explique par un certain nombre de thèmes comme le mauvais usage du pardon, etc. Et alors, il dit qu'il faut qu'il y ait une formation à ce sujet-là. Bon, les violences sexuelles, tout le monde sait qu'il ne faut pas faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela. Bon, mais les violences spirituelles, c'est-à-dire les abus de pouvoir, les conflits avec le pasteur, ça revient sans arrêt. Ça, moi, j'en ai entendu à ce micro. Mmh. Est-ce que vous estimez suffisamment formé, suffisamment...
Je pense que non, c'est une dimension qu'il nous faut explorer. Et davantage, parce qu'effectivement, on voit bien que ce sujet, aujourd'hui, est révélé de manière forte, et il faut s'en emparer pour, effectivement, être plus serein dans nos positions et nos postures. Donc, c'est un sujet où il faut travailler. Je crois qu'effectivement, on a pu dire dans le passé, mais pour l'avoir vécu aussi un peu, être dans un conseil presbytéral, on a le sentiment parfois d'un dessèchement spirituel. Et curieusement, alors que parce que on est extrêmement pris par toute une gestion, je dirais administrative aussi de nos lieux, non seulement de nos lieux, mais de nos la question bâtimentaire est une question qui se pose à nous. Nous sommes propriétaires de biens, il faut pouvoir les entretenir, donc ça suppose des équipes formées, habituées, qui mais on n'a pas que ça, on a aussi effectivement, bien évidemment, cette dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, je crois qu'il nous faut la travailler, la creuser, et on aura besoin de formation dans ce sens. Et notamment dans cette perspective d'une vigilance vis-à-vis de dérives possibles, que ce soit de dérives de prise de pouvoir ou de dérives d'emprise, puisqu'on évoque ce mot, d'emprise spirituelle. Le dialogue avec... Alors, la chance à Montpellier, à la fois, c'est que nous ne sommes pas un seul conseil en dialogue avec un seul pasteur, puisque nous sommes effectivement un grand groupe de conseils en dialogue avec 4 pasteurs. Et donc, là aussi, c'est la particularité de Montpellier, c'est d'entraîner une dynamique interpastorale, intrapastorale, je dirais, voilà, qui fasse corps. Et on a besoin de comprendre comment fonctionnent les rouages entre les uns et les autres. Les conseils de secteur, le conseil presbytéral, le pasteur X et le groupe de pasteurs XYZ. Donc, c'est toujours des échanges et ce sont des relations humaines qu'il nous faut effectivement, sur lesquelles il nous faut être attentif.
C'est dessèchement théologique, dessèchement, c'est...
Le mot est fort.
Non, mais il est intéressant, le mot, parce que effectivement, je me rappelle, tel que j'ai vécu le conseil presbytéral, les séances de conseil presbytéral, il y a toujours une petite prière au début, puis après, on passe effectivement à gestion des bâtiments, etc. Et donc, ça fait réfléchir, ce mot. Et je vous remercie de l'avoir sorti.
Alors, on a besoin d'être nourri, du coup. Aussi, je crois que au sein du Conseil, c'est important qu'on revienne vers cette dimension de la nourriture spirituelle, mais pas seulement attendue de la part de nos pasteurs. Je crois que nous aussi, on peut être source de nourriture par nos lectures, par le partage de nos lectures, le partage de nos interprétations de tel ou tel texte. Et donc, c'est du temps dont on a besoin pour davantage se connaître aussi, y compris sur un plan spirituel.
Ah ben, là, c'est effectivement, on est dans le sacerdoce universel, tout le monde doit participer également à la vie théologique, spirituelle de la communauté. Alors, on revient à votre rôle. Vous avez été président du consistoire de l'Hérault pendant 9 ans. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un consistoire ?
Alors, le consistoire, c'est un échelon qui est peu usité aujourd'hui, ou qui tendrait peut-être à le redevenir, qui est un assemblement, je dirais, de communautés locales, donc d'églises locales. C'est un niveau intermédiaire entre le niveau de l'église locale et le niveau régional, puisque le niveau régional couvre une grande région, en l'occurrence chez nous, c'est Cévennes, Languedoc-Roussillon, mais ça comprend 5 départements français. Et donc le consistoire, ce sont des niveaux infradépartementaux, souvent, qui vise à favoriser une mutualisation des pratiques, une meilleure interconnaissance des églises locales, pour, je le dirais, une solidarité paroissiale, locale. Donc c'était un niveau, et non seulement une solidarité, mais une solidarité aussi entre ces communautés. Voilà. Donc c'est un niveau intermédiaire. Et dans l'Hérault, la difficulté a été que nous avons une grosse communauté montpelliéraine, et puis effectivement un certain nombre d'autres églises locales, moins importante numériquement et donc Montpellier avec elle-même ses quatre secteurs a éprouvé une moins grande appétence pour le niveau consistorial puisque oui. Déjà elle forme elle-même presque
oui.
un consistoire
oui, c'est ça.
En son entier quoi voilà.
Oui,
donc,
oui.
L'expérience de Yann de 2000 à 2009 en tant que président de consistoire a été intéressante parce que ça a permis de mettre en place des catéchèses au niveau consistorial en associant Sète, Clermont-l'Hérault, Béziers, voilà, Montpellier, Pignan à l'époque, qui était une paroisse indépendante, ouais. Alors que maintenant elle a intégré les Pumas. Voilà, donc c'était cette échelle-là. Mais, et ce niveau consistorial aujourd'hui pêche un peu dans l'Hérault. On n'a plus de président de consistoire dans l'Hérault aujourd'hui. Voilà.
Et alors, la pastorale de Montpellier, il y a la pastorale de Montpellier, mais je voudrais qu'on parle d'un autre niveau pour les quelques minutes qui nous restent, pas grand-chose. Mais est-ce que cette pastorale, avec les autres églises protestantes de la Fédération protestante de France, est-ce qu'elle fonctionne ? Parce que j'ai vu qu'il y avait, par exemple, Daniel Musso, qui est un laïc très impliqué dans cette action. Il n'y a pas de dialogue au niveau pastoral ou au niveau des responsables avec des églises évangéliques, par exemple, qui collaborent au niveau de l'aumônerie des prisons, l'aumônerie
des hôpitaux
et cliniques, etc. Alors, est-ce que vous avez des liens ? Est-ce que vous comptez mettre... Là, je recevais ce matin, ça sera diffusé à partir de septembre parce que notre session va se terminer, mais je recevais le pasteur Pierre Gracias, qui est le pasteur responsable de la communauté de Cigane. Donc, c'est très évangélique. Ils font partie de la Fédération protestante de France. Donc,
oui.
À ce titre,
mais
comment les intégrer ?
Je trouve que nous avons à gagner... En connaissance et en interconnaissance avec nos frères et sœurs évangéliques. Et un événement s'est produit, ça fait la deuxième fois cette année, puisque le 8 mai dernier, nous avons eu un forum chrétien oui. qui s'est passé au Lazaret, qui rassemblait effectivement les catholiques, les protestants réformés et des protestants évangéliques. Et c'était la deuxième session, puisque cette session s'était tenue l'an dernier aussi. J'y ai participé et c'était intéressant effectivement de voir que là, 150 personnes présentes avaient le désir effectivement de mieux vivre ensemble quelque chose pour témoigner aussi de ce qui, dans notre vie, nous anime, je veux dire, dans nos questions de foi et de service auprès des autres.
Eh bien, je vous remercie Alain Chapelle de nous avoir livré votre témoignage, de vous connaître un peu mieux puisque vous êtes le nouveau pape
voilà.
de Montpellier. Et donc, eh bien, nous vous souhaitons une bonne présidence. Donc, dans ce conseil qui est quand même un gros travail, beaucoup de courage, bonne chance, et puis merci beaucoup.
Merci à vous pour ce moment, et effectivement je compte sur l'équipe du Conseil pour que nous arrivions à forger des projets qui motivent l'ensemble de l'Église.
Et je remercie les auditeurs de leur fidélité, et je leur dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.